Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi. L'heure pour vous de retrouver le journal de Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Theresa May démissionnera-t-elle demain, comme le laisse entendre ce matin le journal de Londres, The Times? Quoi qu'il en soit, le sort de la première ministre britannique semble totalement occulter aujourd'hui les élections européennes au Royaume-Uni, un scrutin auquel les Britanniques, rappelons-le, n'auraient jamais dû participer 3 ans après avoir majoritairement voté pour une sortie de l'UE. Et puis, autre pays a donné ce matin le coup d'envoi de ces élections, les Pays-Bas. Là-bas aussi, visiblement, le scrutin devrait être scruté de près par le reste du continent, tant il pourrait donner une première indication de la montée en puissance tant redouté des eurosceptiques.
En Inde, les responsables nationalistes au pouvoir revendiquent d'ores et déjà la victoire aux élections législatives.
Les premières tendances du dépouillement les donnent a priori largement en tête sur leurs rivaux.
En France, après qu'on a appris hier la convocation d'un 5e journaliste par la DGSI, les réactions d'indignation se multiplient.
Thomas. Indignation tant de la part des journalistes que de certaines personnalités de gauche. De son côté, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, tout en défendant, je cite, l'attachement du gouvernement à la liberté de la presse, précise que nul justiciable en France n'est en dehors de la loi. Enfin, l'invité politique de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les élections européennes. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Europe, quelle culture commune? Nous en parlerons avec notre invité, l'historien Christophe Charles. Il a co-dirigé chez Actes Sud une volumineuse encyclopédie historique de l'Europe. Il nous rejoindra donc dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. La journée d'hier aura-t-elle été véritablement pire que toutes celles auxquelles Theresa May a déjà dû faire face la veille? Son ultime pari d'ouvrir la possibilité d'un deuxième référendum sur le Brexit avait échoué, se heurtant à une révolte de masse, mais hier donc confirmant l'hostilité que la première ministre britannique aura réussi à susciter au sein même de son propre parti, sa ministre chargée des relations avec le Parlement a décidé de démissionner, devenant ainsi la 36e à claquer la porte de son gouvernement et la 21e liée au Brexit. Autant dire presque la routine, sauf que cette fois-ci, celle qui jusqu'à présent avait résisté hier soir encore aux appels de ceux qui l'enjoignent vertement à partir, Theresa May pourrait définitivement jeter l'éponge. Antoine Gignoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Selon les informations rapportées ce matin par le quotidien The Times, Theresa May pourrait annoncer dès demain qu'elle quitte Downing Street.
Oui, c'est en fait difficile de savoir exactement où en est la Première Ministre, parce que pour ajouter au surréalisme de la situation, la loi électorale interdit depuis l'ouverture des bureaux de vote à 8h de relayer les commentaires qui donnent des indications sur la situation politique. Ce qui est sûr, c'est qu'au cours des dernières 24h, les députés de la majorité qui soutenaient jusqu'ici Theresa May, ceux qui ont voté ces derniers mois en faveur de son projet d'accord avec l'Union européenne, eh bien, ont décidé de rallier le camp des rebelles pro-Brexit, comme Andrea Leadsom, chargé du Parlement, effectivement, qui a démissionné, mais comme d'autres membres de la majorité, Theresa May est de plus en plus isolée. En théorie, personne ne peut l'obliger à partir avant le mois de décembre prochain, explique le Times, mais si elle n'annonce pas sous 24 heures les modalités de son départ, le parti changera les règles et l'obligera à démissionner. Reste à savoir donc jusqu'à quand elle va rester à Downing Street. Jeremy Hunt, le ministre des Affaires étrangères, affirme que Theresa May sera toujours première ministre début juin lors de la venue de Donald Trump. C'est une question de protocole. Pour pouvoir partir, elle doit aller voir la reine et lui donner le nom de son successeur. Et pour qu'il y ait un successeur, il faut organiser des élections. Ça ne sera donc probablement pas avant la fin du mois de juillet.
Alors depuis ce matin, Antoine, les Britanniques sont donc appelés aux urnes. Le Royaume-Uni et avec les Pays-Bas, le premier pays de l'Union, a voté pour ces élections européennes. Or, s'agissant de nos voisins outre-Manche, ce scrutin n'est pas seulement extravagant au sens où il se tient dans un pays censé être en train de quitter l'UE, mais aussi parce que ces élections dont personne ne voulait se tiennent dans le contexte de cette crise politique, de sorte que ce sont les eurosceptiques qui devraient assez largement l'emporter.
Oui, c'est une élection aux allures de deuxième référendum et elle va probablement consacrer la défaite des grands partis. À droite, 1/5 des électeurs conservateurs se disaient cette semaine prêts à voter pour le parti du Brexit de Nigel Farage. Et la crise autour du départ de Theresa May ne va forcément pas arranger les choses, parce que l'ancien dirigeant du parti d'extrême droite UKIP a réussi, avec son nouveau mouvement, à faire oublier son image raciste, xénophobe. Il a fait le pari de rallier derrière lui tous les mécontents, tous ceux qui veulent un Brexit Brexit rapide, quitte à revenir aux règles de l'OMC. Les derniers sondages cette semaine le donnaient vainqueur dans plusieurs circonscriptions, avec jusqu'à 40% des voix dans l'ouest des Midlands autour de Birmingham. La seule possibilité, en fait, pour le contrer, ce serait que la gauche fasse un résultat exceptionnel. Difficile à imaginer. Les candidats du Parti travailliste ont fait campagne contre le Brexit en promettant un deuxième référendum, mais les cadres du parti ne sont pas sur la même ligne et ce manque de clarté pourrait leur coûter des voix.
Merci Antoine Gignoux en direct de Londres. Alors on vient de le voir comme un malheureux hasard, ce sont donc les mêmes eurosceptiques, Nigel Farage, leader d'extrême droite en tête, qui en ouvrant la voie au Brexit avait déjà ébranlé les fondations de la construction européenne, s'apprêterait à nouveau à faire trembler les murs du Parlement de Strasbourg, rejoint d'ailleurs en cela par les autres partis nationalistes ou hostiles au fédéralisme européen, ainsi que le prédisent aujourd'hui toutes les enquêtes d'opinion. Et c'est le cas notamment aux Pays-Bas, où les bureaux de vote ont également ouvert ce matin. Là-bas, exit le député d'extrême droite anti-islam à la chevelure platine, Geert Wilders, dont le style très conflictuel ne semble plus faire recette à présent. C'est un jeune député, docteur en droit, aussi télégénique que connu pour ses positions anti-immigration et climato-sceptique, qui s'annonce comme le grand vainqueur possible de ce scrutin. Son nom, Thierry Baudet, ce farouche militant pour un référendum sur une sortie des pays de l'UE, est aussi partisan d'une Europe boréale, du nom de cette idéologie vantée autrefois par un certain Jean-Marie Le Pen et qui prône une fermeture du vieux continent aux populations extérieures. Alors comment expliquer ce phénomène? Quels sont au fond les ressorts de ce vote? Angélique Boin a posé la question à Sophie Van Honecker, doyenne de la faculté en sciences sociales à Maastricht, professeure en institution européenne.
Oui, la crise financière a vraiment été assez dure aux Pays-Bas, donc le gouvernement a pris beaucoup de mesures dans le domaine de la sécurité sociale, par exemple, aussi dans le domaine de la santé, beaucoup de mesures d'austérité, donc les gens ont souffert, et c'est bien sûr ceux avec des salaires moins élevés qui en ont souffert le plus. Maintenant, ça va mieux, et donc il y a à nouveau des mesures plutôt positif, mais je crois que donc les gens n'ont pas oublié la crise. Et bien sûr, le fait qu'il y a eu l'immigration, il y a aussi le sentiment chez beaucoup de gens, ces immigrants vont prendre nos postes, ils sont prêts à travailler à des conditions inférieures, ils sont moins chers, ils viennent ici pour profiter de notre système social et il ne sera plus payable, donc finalement, on va tous perdre. Ce sentiment est très présent aussi aux Pays-Bas.
Sophie Van Honecker, professeure en institution européenne, elle répondait à Angélique Boin. En Inde, le dépouillement des bulletins de vote à l'issue des plus longues élections de l'histoire du pays, 6 semaines au total, a commencé ce matin. Les élections de tous les superlatifs, puisqu'il s'agit aussi de l'un des scrutins les plus serrés depuis l'indépendance, même si les dernières estimations laissent entendre que le BJP du Premier ministre sortant, Narendra Modi, devrait a priori l'emporter. Les nationalistes hindous revendiquent d'ailleurs d'ores et déjà ce matin leur victoire. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Alors avant de connaître les résultats officiels, précisons tout d'abord que Narendra Modi, propulsé triomphalement au pouvoir en 2014, charismatique harangueur de foule, populiste avant l'heure et adepte de l'ultra-personnification du pouvoir, avait fait de ses législatives un quasi-référendum sur sa personne.
Oui, vous savez, Modi, Narendra Modi, barbe blanche, fines lunettes, 68 ans, est le fils d'un simple vendeur de thé de l'ouest de l'Inde. Mais il est aussi depuis 5 ans l'homme le plus puissant de cette partie de l'Asie. Il est de la race de ces hommes partis de rien et qui par leur intelligence, leur charisme montent pour se retrouver tout en haut de l'affiche. Cela lui vaut d'ailleurs l'admiration des jeunes avec ce message. Ben, si lui y est arrivé, tout le monde peut y arriver. Autre particularité, eh bien c'est un homme qui a compris très tôt le fonctionnement de notre monde basé sur la technologie. Avec lui, pas de conférences de presse, peu de communication dans les médias classiques. Il préfère Twitter. Il faut dire qu'il peut compter sur plus de 40 millions d'abonnés. Troisième force de Modi, son positionnement religieux. L'homme pratique le yoga, certes, mais surtout, il a grandi dans une idéologie nationaliste hindoue. Il préfère parler hindi qu'anglais. Et il sait manier le chiffon rouge de l'ennemi voisin musulman, à savoir le Pakistan, de quoi faire vibrer eh bien, la fibre patriotique de l'Inde.
Et puis, il faut aussi préciser, Nathanaël, que pour arriver donc à sa probable réélection, Modi n'a pas hésité à s'ériger en défenseur de la nation, notamment en accent sa campagne sur un discours sécuritaire.
Vous l'avez dit, l'Inde, c'est donc 1,3 milliard d'habitants, dont 80% d'hindous. Les musulmans musulmans avec 170 millions n'arrivent eux qu'en seconde position dans la population. Conséquence, eh bien, l'actuel chef du gouvernement n'a eu de cesse depuis son arrivée à la tête du pays de souffler sur les braises de la religion et de l'intégrisme religieux. Il a changé le nom musulman de certaines villes, il est intervenu dans le contenu des livres scolaires pour minimiser le rôle des musulmans dans l'histoire du pays et surtout, il a su jouer habilement des tensions dans la région du Cachemire pour faire vibrer la fibre nationale de son électorat. Dans ce contexte, eh bien, les musulmans craignent ce second quinquennat de Modi, mal organisé, sans leader. Ces derniers peinent à se faire entendre et n'arrivent pas à se défendre. D'autant que le principal parti d'opposition de Rahul Gandhi, le Congrès du Peuple, eh bien, c'est un allié faible pour ne pas fâcher son électorat hindou, eh bien, se limite dans son soutien aux musulmans.
Merci Nathanaël Charbonnier. Bien que le gouvernement américain ait temporairement assoupli cette semaine ses restrictions en accordant à Huawei une autorisation d'achat de produits américains pour une durée de 90 jours, le groupe chinois n'en reste pas moins confronté au gel des livraisons de plusieurs de ses fournisseurs après que 4 grands opérateurs nippons et britanniques ont décidé de suspendre la commercialisation de nouveaux modèles Huawei. Hier, c'est le géant Panasonic qui, à son tour, a rejoint la liste des groupes ayant annoncé couper tout ou partie de leur lien avec le fabricant de smartphones chinois. En croire la presse de Séoul, l'administration américaine presserait également la Corée du Sud de renoncer à l'utilisation de produits fabriqués par Huawei. Enfin, selon The New York Times, cette fois-ci, Washington pourrait envisager à présent de placer sur sa liste noire une autre entreprise chinoise spécialisée, elle, dans les systèmes de vidéosurveillance. De quoi attiser un peu plus encore donc les tensions entre les États-Unis et la Chine par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Pékin, tout en promettant de se battre jusqu'au bout, a vivement réagi en dénonçant, je cite, un harcèlement économique. Alors que depuis 2 mois et demi maintenant, les Boeing 737 Max du monde entier sont toujours cloués au sol après 2 accidents qui en moins de 8 mois ont fait 346 morts, les régulateurs aériens d'une trentaine de pays se retrouvent aujourd'hui au Texas à l'invitation de l'autorité américaine de la sûreté aérienne. La FAA va tenter de convaincre ses homologues de lever cette interdiction de vol qui frappe l'un des avions les plus vendus par l'avionneur américain. Les précisions à Washington de notre correspondant Grégory Phillips.
La FAA n'a pas encore donné son feu vert à la remise en service de ces appareils. Il y en a environ 370 dans le monde, cloués au sol depuis le 13 mars dernier, depuis le crash du Boeing 737 MAX de la compagnie Ethiopian Airlines et la mort de 157 passagers et membres d'équipage. Mais le régulateur américain est persuadé que les modifications apportées par Boeing à ces appareils sont suffisantes. Le MCAS, le système anti-décrochage de l'avion, a notamment été corrigé. C'est ce dispositif qui avait été mis en cause dans les 2 crashs de la Lion Air et d'Ethiopian. L'objectif de l'Agence fédérale de l'aviation, c'est que les Boeing 737 MAX récupèrent leur feu vert pour voler dans le courant de l'été, peut-être dès juillet, mais rien ne dit que les autres régulateurs suivront cette recommandation. Les derniers mois ont montré que la FAA et Boeing avaient des liens très étroits, et cette fois, le régulateur européen notamment voudra sans doute attendre le résultat de ses propres évaluations avant de décider de faire redécoller ou non ces appareils.
Jusqu'à quel point et surtout par quels moyens le gouvernement chercherait-il à contourner aujourd'hui la loi sur la liberté de la presse en France, vieille de presque 140 ans. Seule certitude, depuis quelques semaines maintenant, les convocations de journalistes par les policiers de la section des atteintes au secret de la défense nationale semblent devenues monnaie courante. Hier, au moment même où on apprenait que la journaliste du Monde, Ariane Chemin, serait entendue par la DGSI le 29 mai, suite à ses articles sur l'affaire Benalla, une journaliste du quotidien, Valentine Aubertier, révélait pour sa part avoir été convoquée en février dernier pour une enquête sur les ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite. Enfin, hier aussi, c'était au tour de Michel Desprats, journaliste du site d'investigation Disclose, d'apprendre sa convocation, lui, le 28 mai, toujours par la DGSI, après la publication d'une note classée confidentielle défense détaillant l'utilisation dans la guerre meurtrière au Yémen des armes vendues par la France à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Étant entendu, rappelons-le, qu'une semaine plus tôt déjà, ses confrères Geoffrey Livolsi et Mathias Destal, mais également Benoît Colomba de la cellule investigation de Radio France, avaient eux aussi été entendus au titre de cette même enquête. Mathieu Laurent, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel et bonjour à tous.
Alors peut-être, pour commencer, est-il intéressant Mathieu de se pencher sur la chronologie de ces différentes convocations, mais aussi leur intitulé.
Et oui, dans le cadre de son enquête, Valentine Aubertier contacte tout naturellement le ministère des Armées et tout part de cette démarche. Elle sera convoqué aux fins d'audition libre le 15 février, tout comme l'ingénieur du son et le caméraman de Quotidien, eux, les 11 et 15 avril. Le 15 avril, Disclose publie la note confidentielle défense qui est au cœur de l'accélération des procédures et des plaintes déposées par l'État. Benoît Colomba, de la cellule d'investigation de Radio France, est lui soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction de compromission du secret de la défense nationale. Il répondra aux questions de la DGSI le 15 mai en présence d'un avocat, lui aussi en audition libre. Même assistance permise d'ailleurs à ses deux confrères de Disclose, Geoffrey Livolzi et Mathias Destal, questionnés eux le lendemain. Mais Michel Despratz, quatrième plume du collectif, est lui convoqué mercredi prochain, vous l'avez dit Thomas, sous un autre statut, celui de témoin, et il ne peut pas bénéficier d'un avocat. Alors, des précédentes auditions, relevons que la DGSI aura entretenu, entre autres, ambiguïté de convoquer les uns les autres en tant que citoyens en leur demandant tout de même leur numéro de carte de presse ou encore de leur demander de révéler l'identité de leurs informateurs, de phosphorer sur un prétendu majeur distinguo à opérer entre une source et un lanceur d'alerte, non sans rappeler les peines encourues, 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.
Alors, peut-on parler aujourd'hui d'intimidation de la part du pouvoir ? Quoi qu'il en soit, toutes ces convocations suscitent aujourd'hui de nombreuses réactions d'indignation. Et à ce titre, il n'est peut-être pas inutile non plus, Mathieu, de rappeler la personnalité du procureur général.
Et oui, nos consoeurs et confrères font l'objet d'enquêtes préliminaires pour compromission du secret de la défense nationale. On l'a dit, c'est la section C du parquet antiterroriste de Paris qui a été saisie de ces dossiers. Et à ce titre, il serait naïf, voire déraisonnable, de les dissocier des agissements récents du procureur. Le procureur général de Paris, Rémi Heitz, à la nomination controversée, confère la tentative de perquisition dans les locaux de Mediapart, y adjoindre la convocation d'Ariane Chemin, elle encore par la DGSI. Halte à la criminalisation de l'information vraie et d'intérêt public, s'insurge le site d'information. Secret défense versus secret des sources. Le pouvoir semble vouloir fragiliser des enquêteurs de renom, histoire de faire hésiter les autres enquêteurs chevronnés, parmi lesquels Benoît Colomba, qui cite volontiers George Orwell. Le journalisme consiste à publier ce que d'autres ne voudraient pas voir publié. Tout le reste n'est que relations publiques.
Merci Mathieu Laurent. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a été mis en examen pour corruption active par le juge d'instruction Renaud Van Rumbeek. Il est soupçonné d'avoir voulu acheter les mondiaux d'athlétisme de 2017. Jusqu'à présent, il était placé sous le statut de témoin assisté dans le cadre de cette affaire qui concerne à la fois une société basée au Qatar, dirigée par son frère, de même qu'une société sénégalaise appartenant, elle, au fils de Lamine Diack, l'ex-patron de la Fédération internationale d'athlétisme. Sur l'écologie, le temps n'est plus à la parole. Déclaration ce matin d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui ouvrait ainsi le premier conseil de défense écologique. Nouvelle instance issue des mesures post-grand débat national. À cette occasion, François de Rugy a notamment précisé que le projet Montagne d'Or en Guyane était, je cite, incompatible avec les exigences de protection de l'environnement, ce qu'avait déjà laissé entendre Emmanuel Macron, sans préciser toutefois si le dossier était définitivement clos. Quoi qu'il en soit, ce nouveau conseil de défense écologique peine visiblement à convaincre les associations de défense de l'environnement, tout comme d'ailleurs les élus écologistes qui voient davantage une forme d'opportunisme avant les élections européennes de dimanche. Et voilà qui nous conduit tout naturellement à l'invité politique de la rédaction aujourd'hui. Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les élections européennes. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Rosalie Lafarge. Bonjour Rosalie.
Bonjour.
Première question monsieur Jadot. À vous écouter hier soir à la télévision ainsi que Manon Aubry et Raphaël Glucksmann, de même que lors de la seconde partie du débat Yann Brossat et puis surtout votre ancien allié Benoît Hamon, représenté en l'occurrence hier par Guillaume Balas, on se dit que tous autant que vous êtes, il n'y a pas de différence fondamentale entre vous. Il y a bien sûr des nuances, mais sans doute, et c'est à espérer d'ailleurs, y en a-t-il également au sein même de votre propre formation. Pourquoi n'avez-vous pas été capable de former une liste commune de gauche écologiste, comme l'appelait d'ailleurs de ses voeux Benoît Hamon dans sa votation citoyenne? Si l'on additionne les intentions de vote qui vous sont prêtées aux uns et aux autres, vous seriez aujourd'hui très largement en tête. Est-ce que la cause que vous défendez ne mérite pas de dépasser les batailles d'égo?
Écoutez, c'est vraiment pas une bataille d'ego, parce que si j'avais voulu servir mon ego, j'aurais rassemblé tout le monde et ça aurait fait du buzz médiatique et visiblement, ça vous aurait beaucoup plu. Moi, dans cette campagne européenne, mon seul sujet, c'est la cohérence. Et la cohérence, c'est de renforcer le groupe vert au Parlement européen, qui est le seul groupe qui obtient des avancées sur l'environnement, sur la santé, sur les libertés, qui a gagné contre la pêche électrique, pour les lanceurs d'alerte, contre l'huile de palme, pour la protection des données personnelles. Alors, il y a plein de listes qui parlent d'écologie. Mais si on prend simplement la liste socialiste, elle va rejoindre le groupe socialiste au Parlement européen. Le leader socialiste pour cette élection, c'est l'actuel vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans. Il est pour le glyphosate, pour tous les accords de libre-échange, pour le dumping fiscal. Et puis vous savez, quand vous faites campagne dans une élection européenne, vous faites campagne sur tous les territoires. Et ben, quand on est sur les territoires, qu'on combat l'irrigation à outrance dans le sud-ouest, qu'on combat, comme on a combattu Notre-Dame-des-Landes, on combat Europa City, on combat le Lyon-Turin, on combat les contournements autoroutiers qui détruisent les forêts et les terres agricoles. Et ben, il y a les écologistes d'un côté, avec les habitants, avec les associations, et de l'autre côté, en faveur des grosses boîtes qui bénéficient de ces contrats, vous avez les socialistes, les libéraux et les républicains. C'est ça la cohérence.
À 3 jours du scrutin, Emmanuel Macron a donc réuni ce matin, on en parlait dans le journal, le premier conseil de défense écologique. Et à l'issue, le ministre François Drugy et le premier ministre nous disent le projet de Montagne d'Or en Guyane est incompatible avec les enjeux environnementaux. Il nous promet une réforme du code minier en décembre pour inclure toutes les exigences environnementales dans tous les projets miniers. Ça va assez loin ?
Non, malheureusement, ça va pas assez loin. Évidemment, la ficelle est très grosse d'Emmanuel Macron qui réunit un comité de défense écolo à 3 jours du scrutin. Il avait l'opportunité avec Nicolas Hulot, qui est quand même une puissance en matière de conviction, d'action écolo. Il avait la possibilité d'agir. Il ne l'a pas fait. Là, il commence à agir sous la pression du vote écolo.
Mais et finalement, en ce terme écologique, mieux vaut tard que jamais.
Non, mais moi, je prends tout ce qui vient. Vous savez, l'écologie, on n'a pas le temps d'attendre. Donc tout ce qui vient positivement, je le prends. Je regrette là qu'il n'y ait pas une annonce beaucoup plus claire du gouvernement en disant tous les projets de mines à ciel ouvert, il n'y en aura jamais en Guyane. Parce que la rupture qu'il y a en Guyane aujourd'hui avec ce projet Montagne d'Or, c'est de passer à des mines à ciel ouvert, avec du cyanure, avec des explosifs, avec une destruction massive de la biodiversité, des risques pour la santé. Vous avez vu les barrages s'effondrer au Brésil. C'est toutes les populations indigènes, les peuples autochtones qui sont menacés. Et même là, même quand leur seul objectif annoncé partout, c'est de ratisser le vote écolo. Ils veulent pas sauver le climat, ils veulent pas sauver la biodiversité, ils veulent ratisser le vote écolo.
Mais
et ben même là, ils n'y arrivent même pas.
Monsieur Jadot, le Premier ministre, ce matin, vous envoie une petite pique, c'est habituel dans une campagne. Il nous dit Yannick Jadot n'est pas le dépositaire absolu et exclusif de la pensée écologique. Mais avez-vous, Yannick Jadot, le monopole de l'écologie ?
Mais non, moi je veux que tous les Français, je veux que toute l'Europe devienne écolo. Simplement, monsieur Édouard Philippe, qui est le lobbyiste en chef d'Areva au sein du gouvernement, qui a fait en sorte de casser la loi de transition écologique qui devait mettre beaucoup plus d'argent dans l'isolation des logements, c'est la façon de lutter contre la vie chère. Beaucoup plus de moyens dans les énergies renouvelables, c'est la façon de se passer du risque nucléaire et de sauver le climat. Eh ben, il ne l'a pas fait. Regardez sur la biodiversité. Ils sont infoutus d'agir sur les pesticides. Ils sont infoutus de remettre un quelconque projet de destruction de la nature en cause. Moi, simplement, je veux que tout le monde viennent, mais dans la cohérence, pas simplement de faire de l'écologie une mode, un prétexte. Ça, on n'a plus le temps. Nous, les écologistes, on agit. Quand on est dans les quartiers nord de Marseille, on agit. Quand on est à Grande-Synthe, on agit
mais
partout.
Mais vous dites
sur
le temps des écologistes est venu. C'est pas
ben
vraiment
oui.
Ce que disent les sondages aujourd'hui. Pardon,
mais,
Monsieur Jadot.
Ben attendez, vous savez, une élection, c'est un vote. C'est pas un sondage, c'est un vote. C'est le 26 mai. Et ben, je souhaite que justement les Français, notamment toutes celles et tous ceux qui sont convaincus qu'il faut sauver l'Europe, qu'il faut sauver le climat, qu'il faut remettre de la solidarité, ben qu'ils votent, qu'ils prennent le seul bulletin efficace au Parlement européen. Pour faire ça, c'est le vote Europe Écologie. Et puisque Emmanuel Macron n'agit pour l'environnement que sous la pression du vote écolo, bah justement, votez Europe Écologie, comme en Allemagne, comme ailleurs, et ça mettra l'écologie au centre de gravité de la politique en Europe. Ça serait la plus belle des nouvelles.
Monsieur Jadot, au départ, l'Europe, en deux mots, c'était le charbon et l'acier. Aujourd'hui, pour vous, pour Yannick Jadot, l'Europe, c'est quoi, en deux mots ?
100% renouvelable, y compris on se libérera de Poutine, des dictatures du Golfe ou de Trump, et sortir des pesticides pour remettre la nature au cœur de notre projet, pour recréer un enthousiasme pour tous ces jeunes qui marchent pour le climat, qu'ils s'emparent de l'élection, qu'ils laissent pas leur avenir, notre destin décidé par d'autres, qu'ils votent et qu'ils votent pour ce qui va nous réconcilier, ce qui va apaiser la société, le climat, la biodiversité, la solidarité. Donc, Europe Écologie.
Ça fait un peu plus que deux mots, mais le message est passé. Merci beaucoup Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts aux Européennes et invité politique de ce journal.
Et merci à vous également Rosalie Lafarge ainsi qu'à Romain Lucquens pour les moyens techniques. On termine avec un mot de météo, un ciel globalement assez chargé sur l'ensemble du pays. Quant aux températures, elles sont en hausse et atteindront entre 18 et 27 degrés cet après-midi. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.